Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, nous allons continuer de parler du livre de Matthew Walker, Why We Sleep, Pourquoi nous dormons. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur le cycle du sommeil. Nous allons parler de sommeil profond, de sommeil paradoxal. Nous allons voir leur lien dans l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous apprenez quelque chose et quel est le lien avec ces différents types de sommeil. Nous verrons aussi le sommeil biphasique, c'est-à-dire les siestes, et on verra pourquoi c'est très important de dormir, de faire des siestes, pourquoi c'est très bon pour votre santé. On parlera aussi d'animaux et du sommeil, et on verra une particularité que les animaux possèdent, que nous, les humains, ne possédons pas aux malheureux humains. Et enfin, nous parlerons du rôle du sommeil dans la gestion de l'information. Vous allez tout savoir sur l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous apprenez quelque chose, surtout lorsque vous dormez. Donc dans le cycle du sommeil, quand vous dormez à peu près 7, entre 7h et 8h normalement, vous avez des cycles de 90 minutes qui sont en place. Ces cycles sont composés de deux phases, à savoir le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ces deux phases ne sont pas identiques au cours des cycles de 90 minutes. Au niveau du début de la nuit, vous avez plutôt une prédominance du sommeil profond. Et au fur et à mesure que la nuit se passe, au fur et à mesure que vous restez dans votre lit toute la nuit, vous allez avoir une prédominance du sommeil paradoxal. Vous allez avoir un shift entre le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Mais on va commencer par parler du sommeil paradoxal. Et aujourd'hui, je vais surtout vous parler de ces deux types de sommeil. Pourquoi c'est important de bien dormir ? Pour votre impact sur la santé, et surtout je vais vous parler de leurs liens sur l'apprentissage de nouvelles connaissances, que ce soit connaissances intellectuelles, manuelles, physiques. Il y a un énorme impact sur votre capacité d'apprentissage avec ces différents types de sommeil, et si vous dormez bien. Donc on va commencer par le sommeil profond. Donc le sommeil profond, comme je l'ai dit, il est surtout prédominant au début de la nuit, et il a un rôle de nettoyer votre circuit neuronal. C'est-à-dire que pendant la journée, vous allez apprendre des choses et pendant la nuit, ce qui va se passer pendant le sommeil profond, vous allez avoir en fait les choses que vous avez apprises, donc ça va être des connexions neuronales dans votre cerveau. Et pendant cette période de sommeil profond, vous allez avoir un nettoyage de votre circuit neuronal et le sommeil profond va supprimer toutes les connexions neuronales qui sont inutiles. Et il a été montré que durant les phases de sommeil profond, vous avez un signal basse fréquence qui agit comme un messager. C'est-à-dire que pendant la journée, vous avez des expériences qui sont stockées dans une zone court terme. Et le sommeil profond va permettre de déplacer cette information de ce stockage à court terme vers des zones de stockage long terme qui sont plus sûres et plus permanentes. Donc le sommeil profond permet de transmettre l'information qui était recueillie pendant les périodes d'éveil vers un endroit sûr dans votre cerveau. Ensuite, nous avons le sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal, quant à lui, il est surtout présent à la fin de la nuit, comme je l'ai dit en introduction. Et il a aussi un impact sur votre apprentissage, mais différemment. C'est-à-dire que le rôle du sommeil paradoxal va être d'intégrer les connaissances que vous avez obtenues pendant la journée dans votre bibliothèque du monde. C'est-à-dire que vous avez le sommeil profond qui a nettoyé les connexions neuronales, vous avez des blocs de connaissances, et le sommeil paradoxal va prendre ces blocs de connaissances, ces blocs neuronaux, pour les disposer dans votre librairie pour que tout soit parfaitement arrangé, parfaitement rangé. Et il y a une chose qui est super importante à savoir pour le sommeil paradoxal, c'est votre temps de sommeil. Donc comme je l'ai dit, le sommeil paradoxal est surtout actif en fin de nuit, donc en début de matinée. Et l'une des conséquences, c'est que si vous dormez mal, vous amputez très fortement votre sommeil paradoxal. Imaginons que vous devez vous lever 2 heures plus tôt que d'habitude parce que vous devez assister à un événement ou aller dans une autre ville et vous devez prendre le train très tôt le matin. Donc au lieu de dormir 8 heures de sommeil, vous dormez simplement 6 heures. Donc vous perdez un quart de votre sommeil, Mais au niveau de votre sommeil paradoxal, vous allez perdre entre 60 et 90%, ce qui va grandement impacter vos capacités physiques et psychiques. Et surtout, pendant la journée, vous avez appris des choses, peut-être la veille. Et si vous dormez pas bien ou si vous dormez pas beaucoup, donc là, dans cet exemple, vous perdez 2 heures, bah c'est comme si vous avez rien appris. Vous avez un taux de rentabilité de vos connaissances acquises qui s'effondre littéralement. Donc c'est très important de dormir, de faire des nuits complètes, ne serait-ce que pour l'apprentissage. Parce que si vous passez toute votre journée à apprendre une nouvelle langue, à faire du piano ou n'importe quelle activité, même des activités sociales, apprendre à communiquer avec les gens, toutes vos expériences ne vont pas être complètement intégrées dans votre cerveau si vous avez des nuits qui ne sont pas complètes. Donc très important, s'il vous plaît, dormez bien. En tout cas, si vous voulez apprendre de manière efficace et pas passer votre temps à réapprendre des choses que vous avez déjà essayé d'apprendre les jours d'avant, mais vous ne les avez pas intégrées parce que vous dormez mal. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, maintenant je vais vous parler du sommeil biphasique, c'est-à-dire que là on a évoqué le sommeil profond, le sommeil paradoxal, mais on a aussi le sommeil biphasique. Le sommeil biphasique, c'est-à-dire dormir 2 fois dans la journée, et ce qu'on va voir, c'est que c'est quelque chose qui est naturel chez l'être humain. Et notamment, la façon naturelle qu'ont les êtres humains a fortement été impactée par la modernité. Mais à la base, on dormait la nuit et on avait une sieste pendant la journée. Mais dans les pays dits développés, la tendance générale aujourd'hui, c'est de dormir 7 heures et pendant la journée, vous êtes réveillé de bout en bout. Mais dans certaines cultures qui n'ont pas l'électricité, notamment les Gabra au nord du Kenya ou encore le peuple des San dans le désert du Kalahari, leur mode de vie repose sur un sommeil biphasique. Ils ont une première phase qui sera de dormir, donc comme nous, 7 heures de sommeil, on va dire. Et durant l'après-midi, ils feront aussi une sieste entre 30 et 60 minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique du sommeil biphasique, elle n'a pas une origine culturelle, mais elle est profondément biologique. Tous les humains, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur zone géographique sur Terre, ont tous en commun ce câblage biphasique. En fait, ce qui se passe, c'est que dans leur cerveau, à un moment de la journée, surtout en début d'après-midi, ils vont avoir une somnolence qui va arriver et leur réactivité va atteindre un pic bas. Vous vous souvenez que ce soit pour vous, si vous étiez en études, vous allez piquer du nez, je sais pas, vous êtes en amphithéâtre, vous avez le cours de monsieur Bouton, j'en sais rien, qui vous parle d'économie entre 13h30 et 14h30, et vous, à 14h, vous piquez du nez et vous vous dites « Ah non, mais j'ai beaucoup mangé ce midi, c'est à cause de ça. » Et en fait, non, c'est naturel, c'est qu'à ce moment donné, c'était le moment parfait pour faire une sieste de 20 minutes, 30 minutes. Et ce qui se passe, c'est que quand vous dormez, comme on vient de le voir, vous allez avoir du sommeil profond en début de nuit. Et si vous avez appris des choses avant une sieste et que vous faites une sieste, vous allez permettre de vider le réservoir temporaire dans lequel les informations sont stockées vers, comme on l'a dit, des zones qui sont plus sûres dans le cerveau, ce qui fait que vous allez, après une sieste, pouvoir de nouveau apprendre de nouvelles choses sans avoir eu besoin de vider votre réservoir. C'est comme si votre réservoir il est neuf et vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Donc les siestes, c'est quand même assez magique. Et surtout, ça a un impact majeur sur la santé. En fait, il y a des études qui montrent que si vous pratiquez le sommeil biphasique et que vous avez une alimentation saine, et ces deux facteurs, rien que ces deux facteurs, c'est les clés pour avoir une longue vie en très bonne santé. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est dans le monde, il y a des zones qu'on appelle les zones bleues, où il y a un taux anormalement élevé de personnes centenaires. Et dans ces zones, donc c'est de mémoire, on a une zone, on a une île au Japon, on a un endroit au Costa Rica, en Sardaigne, une île grecque. Et il a été montré que dans ces zones, ces personnes pratiquaient le sommeil biphasique et avaient une alimentation aussi équilibrée. Il y avait d'autres facteurs, mais parmi les facteurs prédominants, c'était surtout ceux-là qui étaient observés. Donc, mes amis, si vous voulez, si vous voulez avoir une longévité certaine, faites des siestes. Demandez à votre entreprise de mettre de pas faire de réunion à 14 heures, ça ne sert à rien. Et surtout d'avoir des salles de repos où vous pouvez dormir 20 minutes. Et par exemple aussi, c'était en Grèce, il y avait cette pratique qui a toujours été pratiquée. C'est notamment si vous voyagez, donc en Grèce, donc surtout c'était dans les années 80, vous pouviez voir les horaires d'ouverture des petites boutiques du centre-ville, et elles étaient ouvertes le matin de 9h à 13h, de 13h à 17h elles étaient fermées, et elles étaient réouvertes de 17h à 21h. Et moi personnellement aussi, il y a très longtemps, j'étais jeune, en 2016, j'étais parti en Italie, pas très loin de Florence, et j'étais dans un camping qui était au nord de la ville. On avait une magnifique vue sur tout Florence, c'était magnifique. Et je constatais également qu'en début d'après-midi, donc c'était en juillet, il faisait chaud, on avait juste envie de se poser, de lire un livre et de piquer une sieste. Mais surtout, si vous baladez dans le petit village, vous pouviez voir également que les boutiques, ou les commerçants, les artisans, étaient fermés pendant le début d'après-midi, surtout voilà, de 13h à 17h. Donc cette pratique, elle n'est pas anodine, c'est qu'elle était câblée avec ce besoin qu'on a de faire des siestes, surtout en début d'après-midi. Et maintenant, on va parler d'animaux. Moi, j'adore les animaux. J'adore les animaux. Et là, ce qui est intéressant, là, ce dont je vais vous parler, c'est la différence entre nous, les humains, et les animaux au niveau du sommeil. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on dort, on a les deux hémisphères de notre cerveau qui sont endormis. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui est éveillé. Mais chez la plupart des animaux, notamment aquatiques et les animaux et les oiseaux, pardon, ils ont une capacité de provoquer un sommeil uni-hémisphérique, c'est-à-dire qu'ils peuvent endormir que la moitié de leur cerveau, alors que l'autre moitié de leur cerveau va toujours être pleinement éveillé. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? Mais en fait, il y a des configurations qui sont super intéressantes. Une autre histoire, quand j'étais petit, j'allais souvent chez ma grand-mère qui avait un très grand jardin, ce qui faisait que mes parents, ils allaient souvent lui rendre visite pour l'aider à cultiver son jardin. Et je me souviens, c'était peut-être pendant les périodes d'automne, en fin de journée, pendant le week-end, je voyais dans le ciel des oiseaux qui formaient un V. Et je fais waouh, c'est... Je sais pas comment c'était possible que les oiseaux s'organisent entre eux pour former une lettre, voilà, comme un V, et on voyait qu'il y avait de l'organisation pour voyager en groupe. Et là, ce dont je vais vous parler, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque les oiseaux voyagent en ligne droite. Et en fait, quand les oiseaux voyagent en ligne droite, ils dorment. Mais s'ils dorment, vous allez me dire comment ils peuvent faire face à des menaces de prédateurs, comment ils se protègent. Et en fait, ils utilisent leur capacité de pouvoir endormir que un demi-cerveau pour gérer ce genre de menace. Ce qui se passe en fait, c'est que sur la ligne, tous les oiseaux dorment. Les deux hémisphères sont complètement endormis. Sauf les oiseaux qui sont de chaque côté, à gauche et à droite, de la ligne droite. Et pour l'oiseau de gauche, par exemple, vous allez avoir l'hémisphère gauche qui va être éveillé et l'hémisphère droit qui va être endormi. Donc il aura son œil gauche qui sera alerte sur ce qui se passe autour. Et de l'autre côté, ce sera l'hémisphère droit de l'oiseau qui est le plus à droite qui sera réveillé, et il aura son œil droit qui sera aussi actif. Ce qui fait que cette stratégie, elle permet d'accomplir deux choses. D'avoir une protection panoramique totale des menaces du groupe d'oiseaux, et s'il y a une menace de réveiller tous les oiseaux pour passer à l'action et ne pas se faire manger, on va dire. Et aussi d'optimiser le nombre de demi-cerveaux en sommeil en même temps. Donc voilà, la nature a fait bien les choses. Et on a aussi un autre oiseau qui a une particularité assez exceptionnelle. Donc en anglais, on l'appelle The White-throated Sparrow. Et en français, c'est le bruant à couronne blanche, qui est un petit oiseau qui est capable d'être privé de sommeil total sur de très longues distances. Il a été étudié par l'armée américaine. Vous allez me demander pourquoi. Parce que voilà, c'est vrai que être capable de pas dormir pendant beaucoup de temps et de pas avoir d'effet négatif, parce que la particularité de cet oiseau, c'est qu'il est capable de manquer de sommeil pendant très longtemps, pendant les périodes migratoires, et surtout, il a aucun effet négatif sur sa santé. Il a une extraordinaire horloge biologique qui est résiliente à ce manque de sommeil, mais en tout cas sur cette période limitée. Mais c'est ce qui en fait un oiseau assez exceptionnel vis-à-vis du sommeil. Voilà. Donc il a été étudié par l'armée américaine. Je ne sais pas s'ils ont compris des choses, mais en tout cas, ce petit oiseau, il est exceptionnel également. La nature est belle. Et enfin, je vais terminer par le rôle du sommeil dans la gestion de l'information. Donc comme je l'ai dit rapidement, en fait, vous pouvez voir, au niveau de l'apprentissage, il y a trois phases qui sont distinctes. Vous pouvez vous voir vous-même, en tant qu'être humain, lorsque vous êtes éveillé comme une éponge. Vous allez vivre des expériences. Vous avez vos capteurs, vos oreilles, vos yeux, votre bouche. Voilà, tout ça, c'est des capteurs. Vous allez entendre des sons, vous allez vivre des expériences, vous allez toucher des choses, vous allez expérimenter, je sais pas, un instrument de musique, vous allez essayer de parler une langue étrangère, vous allez communiquer avec des personnes, ils vont vous apprendre des choses, vous allez vivre des émotions. Il va se passer plein de choses durant la période d'éveil. Ce qui fait que, en fait, pendant la période d'éveil, vous allez vraiment expérimenter le monde et vous allez stocker toutes ces expériences dans votre cerveau pendant la journée. Une fois que le sommeil profond arrive, le sommeil profond, en fait, va, pour résumer, ça va être la phase de réflexion. Il va contribuer au stockage et au renforcement des nouveaux faits et compétences issues de ces expériences. Imaginons, ça peut être par exemple, vous avez appris aujourd'hui une recette pour, faire une tartelette. Dans la phase de sommeil profond, voilà, vous avez tous les éléments qui permettent de faire la tartelette, qui ont été stockés dans votre cerveau. Les connexions neuronales inutiles ont été supprimées et vous avez un bloc de connexions neuronales sur comment faire une tartelette. Et pendant la phase de sommeil paradoxal, donc la phase d'intégration, ce que va faire votre cerveau, c'est qu'il va intégrer ce bloc neuronal dû à comment faire une tartelette dans votre bibliothèque du monde. C'est-à-dire qu'à l'instar d'une librairie, dans une librairie, vous allez avoir plein de livres qui sont parfaitement organisés entre eux, ce qui veut dire que voilà, vous allez avoir un livre d'économie, vous allez vous dire « Ah tiens, j'ai envie de savoir comment se passe la sociologie en Afrique du Nord. Ah mais il est à côté du livre en économie, mais c'est tellement bien, j'en sais, c'est trop bien, je peux vraiment y avoir accès rapidement. » Bah là, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir votre blog de connaissances « Comment faire une tartelette ?» qui va s'intégrer dans votre librairie, mais d'une manière harmonieuse. Elle va s'intégrer, ce nouveau fait va s'intégrer à votre monde, à toutes les expériences passées que vous avez eues. Et du coup, la prochaine fois que vous allez avoir besoin de cette information, bah dans votre cerveau, a priori, vous allez avoir accès à cette tartelette. Voilà, quand vous allez vous dire, tiens, comment je fais une tartelette ? Bah, vu que vous allez avoir le sommeil profond, le sommeil paradoxal, qui a fait le travail de vraiment bien intégrer cette connaissance dans votre bibliothèque de connaissances du monde, vous allez avoir accès à cette information très facilement. La prochaine fois, on va parler d'autre chose. Je ne vous en dis pas plus. Et j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao !